Dis-moi, tu aimerais faire quoi quand tu seras plus grande?
Moi, quand je serai grande, je serai...
Et toi?
Quand je serai grande, un podcast d'une jeune femme de la campagne inspirée par de grandes dames de l'histoire, avec Hélène Grillon.
Hello les amis, c'est Hélène Grillon. Je dis hello car aujourd'hui nous avons rendez-vous, vous et moi, avec une Américaine au cœur français. Une artiste qui a eu une multitude de casquettes tout au long de sa vie. Meneuse de revue, icône du musical, créatrice d'une danse mythique, chanteuse ou encore espionne. Elle a fait un peu de chemin de vie en Dordogne, dans l'un des plus beaux châteaux périgourdins. Muse de nombre de ses contemporains, elle est l'une des femmes les plus captivantes du XXe siècle. Et il ne manque pas de livres ni de documentaires pour retracer sa vie. Avec une entrée fracassante dans le Paris des années folles, elle a même révolutionné les arts. On peut dire qu'elle est une grande dame à qui la patrie est reconnaissante, puisqu'elle repose symboliquement au Panthéon depuis le 30 novembre 2021, au milieu des plus grandes figures de l'histoire de France. Un point final éclatant pour une femme qui a mené de front des combats toute sa vie. Elle a été la première artiste noire internationale et elle n'a cessé de mettre une claque aux discriminations raciales dont elle a été victime depuis sa plus tendre enfance américaine. On pourrait dire qu'elle a vécu mille et une vies. Sans plus attendre, je vous propose de partir à la rencontre ensemble de celle qui a forgé son destin à la force de son caractère et de sa détermination, et que je trouve particulièrement fascinante, j'ai nommé Joséphine Baker. Petit retour en arrière, nous allons en 1906, car Saint-Louis est noyé sous la fumée noire de la révolution industrielle qui bat son plein aux États-Unis. Les usines du Missouri s'activent et on peut entendre au loin le train qui s'apprête à partir de la gare. À Saint-Louis, on est très occupé car on vient tout juste d'accueillir deux grands événements. L'une des plus grandes expositions du monde, la Louisiana Purchase World Fair, mais aussi les Jeux Olympiques de 1904. Rien que ça. Quelques rues plus loin, nous arrivons dans le quartier de Mill Creek, qui a accueilli à plusieurs reprises le poète Walt Whitman, qui est une grande figure littéraire du pays. Mais c'est dans une petite maison juste à côté, à Bernard Street, que notre héroïne voit le jour. Nous sommes alors le 3 juin 1906, et au milieu de l'effervescence de la ville, Carrie MacDonald et son mari Eddie Carson, un couple d'artistes de rue, accueille Freda Joséphine, une jeune fille souriante et pleine de vie. Elle naît noire dans un pays qui a aboli l'esclavage il y a une quarantaine d'années. Pourtant, l'enfance de Joséphine est secouée par la ségrégation raciale, un lourd régime qui lui fera vivre les plus grandes expériences douloureuses de sa vie, mais aussi qui l'amènera à mener l'un des plus grands combats de sa vie. Mais revenons à cette gamine du Missouri, ou comme elle se faisait appeler à l'époque, Tumpy. Un an après sa naissance, son père quitte la famille. Sa mère, Carrie, se retrouve alors seule pour subvenir aux besoins de la famille, et Joséphine grandit dans une extrême pauvreté. Très tôt, notre jeune Tumpy fait tout pour devenir indépendante et partir de chez elle. C'est pour aider sa mère qu'elle commence à travailler dans les grandes maisons bourgeoises chez des familles blanches qui la traitent comme une moins que rien. Elle trouve alors du réconfort en dansant et la rue est la première scène qui l'accueille. Tout le monde se retourne pour voir danser cette petite fille si captivante. Ses débuts un peu plus professionnels, disons-le, elle les fait en rejoignant le trio d'artistes de rue, le Jones Family Band. Elle ne se doutait peut-être pas de la grande aventure artistique qui l'attendait. Coincée encore à Saint-Louis, elle épouse à 13 ans un garçon prénommé Willie, mais leur union ne fait pas long feu.
car un an plus tard, elle divorce et s'en va après avoir cassé une bouteille sur la tête de son ex. Une raison de plus pour s'en aller. C'est décidé, elle plie bagage direction la côte est des États-Unis et la frénésie de la Big Apple. Changement de décor pour New York. À New York, elle vit, pourrait-on dire, d'amour et d'eau fraîche, puisqu'elle dort la nuit dans des parcs. Mais elle ne perd pas espoir. Elle réussit à décrocher un boulot dans Chocolate Dandies qui joue à Broadway en 1924. Un soir, elle fait l'une des rencontres qui va changer le cours de sa vie. Toujours aussi sensationnelle, Joséphine est repérée par Caroline Dudley Regan qui lui dit « Hey Joséphine, tu ne voudrais pas venir danser pour un show à Paris ?» Alors, après 2 secondes d'hésitation environ, Joséphine prend un billet aller sans retour pour la France, où elle débarque en 1925. Elle confiera plus tard « Un jour, j'ai réalisé que j'habitais dans un pays où j'avais peur d'être noire. J'étouffais aux États-Unis. Je me suis sentie libérée à Paris. » Joséphine arrive en France, telle une inconnue. À Paris, on travaille le jour et on va au Music Hall la nuit, des sortes de scènes ouvertes où l'on découvre de nombreux artistes. L'un des endroits les plus branchés, c'est le Théâtre des Champs-Élysées, où Joséphine va justement débuter dans une nouvelle revue qui consiste à mettre en lumière des danseurs noirs américains. En peu de temps, et vous l'aurez compris, le théâtre fait salle comble tous les soirs. Imaginez-vous au cœur d'une France en plein bouillonnement culturel, une Joséphine électrisante dansant le Charleston. Personne n'avait auparavant dansé avec autant de liberté sur une scène parisienne. Au-delà de performer une danse, Joséphine joue et s'invente un personnage qui lui permet de transcender tous les clichés qu'on aimerait lui coller à la peau, dont notamment celui entre « gros guillemets » de fer africaine. Car, rappelons-le, la France, son pays d'adoption, ne connaît ni la ségrégation ni la morale puritaine, mais a d'énormes progrès à faire sur les questions raciales. On admire Joséphine, mais on lui attribue aussi de nombreux fantasmes coloniaux. Après plus d'une centaine de représentations et un succès incontesté, elle prend du galon et devient meneuse de revue aux Folies Bergères à seulement 20 ans. C'est ici que Paris s'entiche de sa ceinture de banane et de la frénétique danse sauvage qui va la rendre célèbre, en quelque sorte les débuts du twerk. Mais l'ambition ne s'arrête pas là, car la danse, c'est sa vie. Joséphine prend alors une nouvelle casquette, celle de la businesswoman, et elle ouvre un cabaret dans le quartier Pigalle. Elle monte même un numéro dans lequel elle partage la vedette avec un guépard appelé Chiquita, qui aime beaucoup se promener en dehors de la scène, pour les grands malheurs du public. Chiquita partage l'appartement à Paris avec, entre autres, Kiki, un serpent et toute une ménagerie. C'est entre quelques cours de danse, des promenades dans Paris et encore de la danse, que Joséphine fait la connaissance de celui qui deviendra son impresario, Giuseppe Pepito Abatino. Leur duo de choc ouvre de nouvelles portes à Joséphine qui, en grande bosseuse acharnée, ne veut plus être considérée comme une curiosité exotique. Elle se lance d'abord au cinéma, aux côtés de Jean Gabin en 1934 dans le film Zouzou, faisant d'elle la première femme noire dans un premier rôle. Elle trouve également un nouvel amour dans la musique. L'année 1930, on peut entendre « J'ai deux amours, mon pays est Paris, par sur une belle musique de Vincent Scotto. Comme pour prendre de la distance avec les États-Unis, les paroles seront modifiées après-guerre
pour, j'ai deux amours, mon pays c'est Paris. Cette chanson a rencontré un succès si retentissant qu'elle est aujourd'hui considérée comme un classique. En 1934, on arrange même pour Joséphine la Créole, qui est une opérette d'Offenbach, et c'est à ce moment-là qu'elle devient une sorte d'artiste totale. L'argent coule à flot, et c'est à cette période que notre héroïne, grande généreuse dans l'âme, se lance dans les œuvres caritatives. Elle tente de revenir sur la scène américaine, aux Ziegfeld Follies à New York, mais les États-Unis, qui la trouvent un peu trop dénudée, lui tournent une nouvelle fois le dos. Joséphine rentre en France pour de bon et obtient la nationalité française juste avant l'arrivée de l'occupation nazie. Non loin de Paris, la tension monte crescendo au début des années 30. Bientôt, Adolf Hitler ne tarde pas à galvaniser ses sympathisants autour d'une politique de persécution. Juifs, membres de la communauté LGBT, citoyens noirs deviennent les cibles de discours et d'actions haineuses. Alors qu'elle était mariée à Jean Lyon, un industriel juif, le couple se sépare. Joséphine comprend rapidement les ressorts racistes qui se dégagent de l'idéologie nazie. Lors d'une tournée en Europe de l'Est, elle prend de plein fouet toute la haine raciale qu'elle pensait avoir laissée dans son pays natal, car en Allemagne, les salles de spectacle refusent de la laisser monter sur scène, et peu à peu, la propagande nazie l'érige en véritable diable. Joséphine se demande alors ce qu'elle peut faire en réaction à cette machine infernale. La guerre éclate finalement en septembre 1939. Notre artiste se forge une nouvelle identité dans la voie de l'engagement politique, celle du sous-lieutenant Baker. Tant que son pays de cœur vivra sous un tel joug, elle consacrera son énergie à l'effort de guerre et à la France libre. Loin de la vie de cabaret, sa musique et sa danse iront désormais soutenir chaleureusement les hommes partis au front. C'est ainsi qu'elle devient la marraine de nombreux soldats. En 1940, alors que l'armée française vient de connaître une importante défaite, l'engagement de Joséphine prend une toute autre ampleur. Elle a entendu, comme de nombreux résistants, l'appel du général de Gaulle depuis Londres.
L'honneur, le bon sens, l'intérêt supérieur de la patrie commandent à tous les Français libres de continuer le combat là où ils seront.
De sous-lieutenant Baker, Joséphine devient résistante et s'engage auprès des services du contre-espionnage français. Il faut dire que sa couverture a peu de chances d'être découverte. Qui douterait de l'une des plus grandes artistes de son temps alors que sa réputation n'est plus à prouver ? Joséphine crée des spectacles et part en tournée pour récolter des fonds et des informations confidentielles. Elle forge même à cette époque des relations étroites avec le maquis en Dordogne grâce à son pied-à-terre au château des Milandes. Mais on y reviendra dans quelques secondes. À la libération, en raison des risques qu'elle a pris, elle reçoit de nombreux honneurs militaires, dont la Légion d'honneur. Et vous l'attendiez, c'est justement au château des Milandes, dans notre belle contrée du Périgord, que nous nous rendons maintenant. Car c'est Joséphine qui a permis de faire connaître ce beau château au monde entier. À la fin de la guerre, Joséphine épouse Joe Bouillon, chef d'orchestre rencontré en 1933 lors d'un gala en Belgique. Elle aimerait fonder une famille avec lui, mais une fausse couche violente l'empêche de tomber définitivement enceinte. Joséphine a 41 ans, lorsque le couple acquiert définitivement, ou presque, la demeure périgourdine. Un immense château pour une immense famille. C'est décidé, ils adopteront. Leur havre de paix se transforme donc en capitale de la fraternité et 12 enfants de toute origine viennent enchanter la vie de Joséphine et de Joe. Quand on aime, on ne compte pas. Et Joséphine aimait sans compter. C'est d'ailleurs ce qui va précipiter les Milandes dans un gouffre financier. Les dépenses se multiplient, des artisans qui travaillent sur le château usent de stratégies douteuses et Joe Bouillon se rend compte rapidement du train de vie fastueux que sa famille mène. Il décide en 1961 de partir vivre en Argentine et laisse derrière lui Joséphine, seule avec les 12 enfants. À cette époque, Joséphine ne chante que très peu. De retour bref aux États-Unis pour se produire, elle refuse d'être payée par les salles ségrégationnistes. La discrimination raciale a continué de gangréner son pays natal. Mais Joséphine est une militante ardente dans l'âme. Elle s'engage aux côtés de Martin Luther King. En 1963, elle s'exprime avec ferveur devant toute une foule venue à Washington pour soutenir le mouvement des droits civiques. Et Joséphine déclare « En France, je n'ai jamais eu peur. » Elle est à ce moment de l'histoire avec un grand H, la seule femme à prendre la parole lors de ce rassemblement. Son récit, entremêlé d'expériences douloureuses de sa vie, s'achève alors que quelques minutes plus tard résonne le célèbre discours « I have a dream » du Dr Martin Luther King. Cette marche devient un moment clé de la lutte pour la justice raciale et sociale, mais aussi l'un des plus beaux jours de la vie de Joséphine, comme elle le dira plus tard. Ce combat, elle le poursuivra même à son retour en France, aux côtés de la LICRA, dont elle sera l'ambassadrice. Mais revenons en Dordogne, au château des Milandes, car là-bas, l'endettement est inévitable. Malgré les efforts de Joséphine pour garder sa propriété et l'appel à la télévision nationale de son amie Brigitte Bardot, elle est expulsée avec toute sa famille en 1968. Heureusement, elle peut compter sur le soutien d'une autre amie, la princesse de Monaco, Grace Kelly. Elle lui offre un appartement à Roquebrune, près de Monaco, et permet à Joséphine de revenir sur la scène parisienne. Mais le destin prend parfois des détours inattendus. Joséphine se produit de nouveau à Paris, depuis quelques années déjà, lorsqu'en avril 1975, elle fait son retour triomphal sur la célèbre scène du Théâtre Bobino pour les 50 ans de sa carrière. Malheureusement, elle meurt quelques jours plus tard, à 68 ans. À la hauteur de son personnage et des milliers de cœurs qu'elle a touchés, une immense foule d'inconnus se presse à ses funérailles à la Madeleine pour lui rendre un dernier hommage. Elle laisse derrière elle sa tribu arc-en-ciel et une association qui continue son action en faveur des enfants abandonnés. Plusieurs années passent, la France connaît de nouveaux bouleversements culturels, peut-être pas tout aussi forts que la tornade scénique qu'était Joséphine. Car il est vrai, personne n'était véritablement comme elle. Finalement, c'est en novembre 2021 que l'on entend parler de nouveau de cette fabuleuse artiste. Osez Joséphine, ce n'est pas le titre d'une chanson d'Alain Bachung, mais bien celui d'une pétition. Son entrée au Panthéon, décidée par le président de la République, a ravivé son souvenir et l'héritage colossal qui l'a succédé. Pourtant, les combats que Joséphine a menés durant toute sa vie n'ont toujours pas trouvé de fin. Joséphine, c'est l'histoire d'une femme incroyablement courageuse, altruiste et engagée. La première femme noire à entrer dans le Saint-Monument du 6e arrondissement de Paris, alors que la lutte contre le racisme se poursuit toujours en France et aux États-Unis, les deux pays dans lesquels elle a vécu. Son aura éternelle résonne même au-delà de la Terre, c'est dire, puisque pour l'anecdote, un cratère de Vénus porte son nom. En somme, cette petite fille du Missouri a trouvé ce qu'elle voulait faire quand elle serait grande. Voilà, rien que ça. Je vous remercie à toutes et tous d'avoir écouté ces quelques minutes passées en compagnie de Joséphine Baker. J'espère que ça vous a plu. C'est le moment de conclure cet épisode, mais pas de tristesse, car je vous donne rendez-vous dans 2 semaines pour découvrir celle que l'on surnomme la sirène australienne. Peut-être que ça ne vous parle pas du tout, mais elle a un sacré destin. Nageuse de compétition et grande avant-gardiste, elle a libéré le corps des femmes. Tout ça grâce à un maillot de bain, une pièce appelée le Kellerman. Je ne vous en dis pas plus. En attendant de nous retrouver, restez curieuses et curieux. À bientôt sur RLP.